Avant la Première Guerre mondiale, les hommes avaient plutôt tendance à mâcher du tabac, soit à mâcher du tabac. Pendant la Première Guerre mondiale, les compagnies de tabac américaines vont envoyer aux soldats des paquets dans lesquels il y a des cigarettes. Ce qui fait qu'après la guerre, dans les années 20, les hommes fument. C'est devenu acquis. Par contre, les femmes ne fument toujours pas. Et c'est socialement mal vu pour les femmes de fumer, surtout en public, tu vois, surtout en public. Alors, Bernice, on lui soumet le problème. On lui demande de corriger ce problème-là, parce qu'évidemment, il y a la moitié du marché à les conquérir, tu vois. C'est vrai. Et savez-vous ce qu'il va faire? Et voilà un exemple de travail qu'il faut connaître, d'événements qu'il faut connaître. Il était le double neveu de Sigmund Freud, Edward Bernice. Neveu par... oui, c'est vrai, il était doublement le neveu de Sigmund Freud. Et par son père et par sa mère. Donc, il était doublement neveu de Sigmund Freud. Et son travail peut se comprendre en référence à Freud. C'est-à-dire que l'opinion publique, elle est là, ils ont des pulsions, des passions, ça résonne pas trop. Et il faut travailler ça, cristalliser ça, puis faire adhérer aux choses qu'on a décidé que le public devait croire. Vous suivez? Alors, par exemple, pour la cigarette, Bernice va se rendre compte que beaucoup de gens sont... accueille avec sympathie la cause des femmes, des suffragettes, de la liberté des femmes. Et il va jouer là-dessus pour amener les femmes à fumer. Et là, en 1929, lors de la fameuse Easter Parade à New York, il va couler des informations dans divers journaux et un peu partout, disant qu'un groupe de femmes, certaines d'entre elles étant connues, les actrices, etc., vont poser un geste d'éclat pendant la parade de Easter à New York, tu vois. Quel est ce geste d'éclat-là? Bien, évidemment, il a tout coordonné, hein, il a tout planifié, il a payé ces gens-là, et marchant à New York pendant la parade de Pâques, certaines femmes, et là les journalistes les attendent, le lendemain ça va être dans tous les journaux en première page, sortent des cigarettes et les allument et les appellent des flambeaux de la liberté. Torches of freedom. C'est assez fort, hein? Torches of freedom. Alors, donc, Bernice va...
Ça fait drôle, hein? Petit malaise.
Voilà, donc... Et Bernice, donc, l'industrie des relations publiques, c'est quelque chose d'important à connaître, tu sais, pour prendre le pouls de l'information, de sa circulation dans des sociétés comme la nôtre, tu vois. Aux États-Unis, les derniers chiffres que j'ai vus citaient que 125 000 personnes travaillaient dans l'industrie des relations publiques aux États-Unis. C'était plus que le nombre de journalistes au pays.
Places all. All join hands, circle left. Now circle right and listen to me, LSLSMFT. Alan, bend your corners like swinging on a gauge. To right to you, honey, with a right to left eight. Grand right and left around you go. Lucky strike means fine tobacco. Meet your honey and give her a whirl. All swing around with your little girls. Smoke 'em, then you'll see LSLSMFT. Promenade and don't you fall, promenade around the hall. Lucky strike is first again with tobacco men. Promenade straight down the pike, it's time right now for a lucky strike. Yes, for smoking that you're bound to like, you just can't beat a lucky strike.
Lucky Strike means fine tobacco. C'est une pub pour Lucky Strike, pour les cigarettes Lucky Strike. Prends ta chérie par la main et fais la tournée. Lucky Strike pour les hommes les plus forts. Comment on nous a fait fumer? Comment on a fait fumer les femmes? Il faudrait aussi sans doute parler à la libération en France. Comment justement cette marque de cigarette-là a été offerte généreusement à la population française. On voit toutes ces manipulations. Toujours avec Normand Baillargeon pour son petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et il y a aussi, parmi les manipulations dont nous pouvons être l'objet, nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes, qui nous manipulons, qui nous auto-manipulons. Et pour entrer dans ce chapitre-là, il y a une petite phrase de Nietzsche qui dit ceci. « J'ai fait cela, dit ma mémoire, c'est impossible, dit ma conscience, et... c'est ma mémoire qui cède. » Parmi la façon dont cette désinformation nous gagne et nous domine, il y a aussi par nous-mêmes, hein, on a évoqué la Boétie, mais il y a aussi notre propre appréciation, notre propre façon de nous référer à nous-mêmes pour comprendre le monde autour de nous, qui peut être tout à fait faussée. C'est-à-dire que si on ne se fie qu'à notre propre perception,
on peut tout à fait s'auto-désinformer, si on peut dire.
Oui, c'est vrai. Il faut se méfier de soi-même. Puis comme je le dis dans le petit cours aussi, s'il y en a qui l'ont lu, il faut se méfier des auteurs de petits cours d'autodéfense intellectuelle. Ça, je tenais à dire.
Oui.
Non, mais effectivement, le recours à l'expérience personnelle est quelque chose qui... Vous savez, on tend facilement à valider par l'expérience personnelle.